de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La France a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Sept pays africains face à la quatrième vague de COVID-19. L'Indonésie et la Grande-Bretagne coopèrent pour construire des frégates. L'Indonésie soutient l'agriculture durable en Afrique à la réunion du G20. Le Centre indonésien d'études sur l'Asie du Sud-Est organise une discussion sur la gestion des déchets à Java orientale. Sergemi nous présente maintenant le journal complet. La France, face à une crise diplomatique, ce qui n'est jamais arrivé auparavant, avec les États-Unis et l'Australie. Paris a convoqué ses ambassadeurs des deux pays. La décision qui n'a jamais été prise après l'annulation d'un contrat de sous-marin de 40 milliards de dollars avec l'Australie. Dans une déclaration samedi 18 septembre, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la décision du président Emmanuel Macron montrait que ce problème était sérieux. Jeudi 16 septembre, l'Australie a annulé le contrat de production d'une flotte de sous-marins conventionnels avec la société française Naval Group. L'Australie a choisi de construire 8 sous-marins nucléaires avec des technologies américaines et britannique après avoir signé un accord de coopération trilatéral avec les deux pays. La Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis regrettaient la décision de la France et que Washington resterait en contact avec eux. Le gouvernement américain a déclaré qu'il chercherait à résoudre les différends avec la France dans les prochains jours. Sept pays africains sont actuellement confrontés à la quatrième vague de la pandémie de COVID-19, tandis que 43 autres pays sont bloqués à la troisième vague. Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, jeudi 16 septembre, la quatrième vague de COVID-19 frappe actuellement l'Algérie, le Bénin, le Kenya, la Tunisie, l'Égypte, Maurice et la Somalie. Comme Anadolu l'a rapporté vendredi, le chef du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, Afrique, John Kengasson, a déclaré lors d'une conférence de presse hebdomadaire, environ 37 pays du continent africain ont signalé la variante Delta et deux pays ont enregistré la variante Gamma. Le nombre de cas sur le continent africain a atteint environ 8,1 millions avec 204 821 décès et 7,4 millions de guérisons. Il a ajouté que le Soudan, la Somalie et l'Égypte ont signalé des taux de mortalité plus de 5%. En termes de vaccination contre la COVID-19, le continent africain a reçu 167,5 millions de doses, donc 122,4 millions de doses ont été données. Le gouvernement indonésien et britannique ont signé jeudi soir un accord sur la construction d'une frégate navale à Londres, en Angleterre. Selon une déclaration écrite de l'ambassade britannique reçue à Jakarta vendredi, la signature de l'accord a eu lieu en présence du ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, et du ministre britannique de la Défense, Ben Wallace. La frégate est un navire de guerre de taille moyenne qui peut se déplacer avec agilité et rapidité. Les frégates de la coopération seront construites en privilégiant la vitesse et la maniabilité. Babcock, une société britannique aérospatiale de défense et de sécurité, a conclu un accord de licence pour PT PAL afin de fabriquer la frégate Arrowhead 149 en Indonésie et de travailler avec des travailleurs domestiques. La conception et les spécifications Arrowhead peuvent être adaptées aux besoins de la marine indonésienne. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Owen Jenkins, s'est félicité de la coopération afin que la défense se renforce entre les deux pays. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, invite les pays du G20 à accroître le rôle du secteur agricole durable dans la réalisation des objectifs de développement durable, notamment pour l'Afrique, en augmentant les capacités des agriculteurs à créer une sécurité alimentaire mondiale. Le ministre indonésien de l'Agriculture, Syahrul Yassin Limpo, dans sa déclaration reçu à Jakarta vendredi, a souligné que les pays du G20 doivent jouer un rôle important dans la construction d'un environnement mondial propice pour encourager les investissements dans le secteur agricole et assurer un commerce alimentaire et agricole juste et fluide, notamment soutenir l'Afrique dans la réalisation des cibles des objectifs de développement durable 2030, en particulier l'élimination de la faim. Syahrul, dans ses remarques lors du forum ouvert sur l'agriculture durable lors de la réunion des pays du G20 en Italie, a déclaré que l'Indonésie continue de soutenir l'Afrique en partageant ses expériences concernant les divers efforts déployés par l'Indonésie pour augmenter la production agricole et atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La région africaine continue de faire face à des défis assez sérieux en raison du changement climatique, des catastrophes naturelles, des ravageurs et des maladies des plantes. Le Centre indonésien d'études sur la Sud-Sud-Est a organisé une discussion sur la gestion durable des déchets à Java Oriental. Selon ce centre, dans une déclaration écrite à Jakarta vendredi, l'activité fait partie du programme Repenser les plastiques qui a le soutien des institutions internationales, y compris l'Union européenne, l'Agence allemande de développement ou GIS et l'organisme public Expertise France. La discussion a eu lieu dans les groupes de discussion dans la région de Malang sur le thème le rôle des parties prenantes dans la gestion durable des déchets dans le cadre des efforts visant à accroître les capacités au niveau local. Le programme de renforcement des capacités vise la gestion durable des déchets et cible la large responsabilité des producteurs en matière d'emballage plastique. L'activité a également été participée par diverses parties qui ont contribué aux gestions durables des déchets dans la région, y compris des représentants du service environnemental de la région de Malang, de l'Organisation indonésienne de récupération des emballages, des banques de déchets, des organisations non gouvernementales, des entreprises de recyclage du plastique, des universitaires et les leaders communautaires. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Solo dans le centre de Java. La vaccination de COVID-19 dans la ville de Solo, le centre de Java, a atteint 100% de l'objectif, conformément à l'accélération continue du gouvernement de la ville impliquant divers partis. Le maire de Solo, Gibran Raka Buming Raka, a déclaré mardi que bien que l'objectif ait été atteint à 100%, les activités de vaccination seront toujours menées, notamment aux étudiants. Son parti continuera à effectuer des vaccinations jusqu'à ce qu'il atteigne 120-130% de l'objectif. Le chef du service de santé de la ville de Solo, Siti Wahyu Ningsih, a déclaré qu'actuellement la réalisation du vaccin dans la ville a atteint 101,6% de la cible de 417 000 habitants. Cependant, selon lui, en réalité, tous les receveurs de vaccins ne sont pas des résidents de Solo. Les nouvelles suivantes sont venues de Bantul, Yogyakarta. Le Bureau de tourisme de la région spéciale de Yogyakarta et le gouvernement de la région de Bantul ont élargi la cible du programme de vaccins de voyage aux familles d'acteurs du tourisme de l'économie créative. Le chef du Bureau de tourisme de Yogyakarta, Singhi Raharjo, après avoir examiné la vaccination COVID-19 au parc aquatique Puri de Bantul, a déclaré mardi dernier que l'objectif de cette vaccination COVID-19 était de 1200 personnes. Ce programme est la collaboration entre le Bureau de tourisme de Yogyakarta, le Bureau de santé de Yogyakarta, la Régence ainsi que le Bureau de tourisme de Bantul et le Bureau de communication de l'information. Grâce à cette collaboration interinstitutionnelle, on espère que l'objectif de 1200 vaccins pourra bientôt être réalisé. Singhi a déclaré que la vaccination COVID-19 pour les acteurs du tourisme a atteint 34 fois dans différentes destinations touristiques à Yogyakarta. La couverture vaccinale du secteur du tourisme avait atteint 92%. Les dernières nouvelles sont venues de Palu, dans le centre de Sulawesi. Le gouvernement de la ville de Palu, dans le centre de Sulawesi, remercie la croissance russe turque d'avoir construit une magnifique école primaire dans le but de soutenir les activités de réhabilitation et de construction pour le relèvement après le séisme à Palu. Le maire adjoint de Palu, Reni Alamajido, lors de la remise du bâtiment de l'école primaire d'État de Poboya à Palu, a déclaré mardi que ce bâtiment scolaire aidait vraiment le gouvernement de la ville de Palu à améliorer la qualité de l'éducation pour éduquer la vie de la nation. Il espère que la croissance russe turque continuera à participer aux activités de réhabilitation et de reconstruction à Palu. Il a déclaré que la croissance russe turque avait l'un des premiers partenaires à aider la Croix-Rousse indonésienne lors de la réponse d'urgence à la catastrophe. Ils ont envoyé du personnel de leur bureau de délégation au Bangladesh avec une assistance via deux avions cargo militaires le 9 octobre 2018. Jérémy, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie.
Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 18 septembre. Le 18 septembre 1931, l'incident de Mukden. L'incident de Mukden ou l'incident de Mansuri s'est produit le 18 septembre 1931. À ce moment-là, le Japon a conçu la détonation de sa propre ligne de train située dans le sud de la Mansurie, près de la ville de Mukden en Chine. Lorsque les chemins de fer appartenaient au Japon, bombardés par un officier subalterne japonais, l'explosion est très faible. Mais l'armée japonaise a accusé la Chine d'avoir fait cela et a fait le Japon à occuper la ville 6 mois plus tard. Cet incident a déclenché la deuxième guerre sino-japonaise. Le 18 septembre 1948, la rébellion du Parti communiste indonésien ou PKI. La rébellion de PKI de 1948, ou également connue sous le nom d'incident de Madiun, était une rébellion menée par des membres du Parti communiste indonésien. Le 18 septembre 1948, à Madiun, dans l'est de Java, cette rébellion a été précédée par la chute du cabinet indonésien qui était dirigé par Amir Sharifuddin. Le cabinet n'a plus reçu le soutien depuis la signature de l'accord de Renville. Ensuite, un nouveau cabinet a été formé, dirigé par Mohamed Hatta, en tant que premier ministre. Le groupe anti-gouvernemental est plus fort après Musso, le chef du Parti communiste indonésien, revient de Russie. Ils pensent que la direction nationale devrait être contrôlée par le Parti communiste indonésien. Le mouvement anti-gouvernemental a abouti au déclenchement de la rébellion du Parti communiste indonésien à Madiun. Le 18 septembre 2007, la manifestation anti-gouvernementale en Birmanie. La cause des manifestations était la décision de la junte, l'Assemblée pour la paix et le développement, pour annuler les subventions aux carburants et augmenter les prix des carburants, comme recommandé par le FMI et la Banque mondiale de 100%. Dirigée par des étudiants et des militants politiques de l'opposition, la manifestation a été rapidement gérée par la junte, détenant des dizaines de manifestants. Le 18 septembre 2007, la manifestation était dirigée par des milliers de moines bouddhistes, membres de l'Alliance des moines birmans, et la manifestation a été autorisée jusqu'à ce que le gouvernement commence à arrêter les manifestants le 26 septembre. Cette manifestation est connue sous le nom de Révolution du Safran. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Sudahi semua bicara, ku ingin segera berdua, dan pagi menjelang melahirkan mentari, pagi dan sudahi semua prasangka. Dunia berputarlah saja, rekam peristiwa yang takkan terulangi lagi dan sudahi malam yang duka. Dunia kau kan baik saja. Hujan akan tiba melahirkan pelangi. Belajar memahami masa depan, takkah yang disimpan akan tenang, melahirkan semua nada indah. Mencoba menjadi bahagiamu sendiri. Sudah lupakan semua derita. Doa semesta menjaga. Luka akan hilang, perlahan terobati. Belajar memahami masa depan, takkah yang disimpan akan tenang, melahirkan semua nada indah. Mencoba menjadi bahagiamu sendiri.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique « Mon Indonésie » intitulée « Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et six gouvernements provinciaux coopèrent à la gestion durable des ressources marines ». Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et six gouvernements provinciaux ont signé un accord de coopération dans le cadre de la gestion durable des ressources marines et halieutiques à Jakarta mardi 14 septembre. Les six gouvernements provinciaux qui ont signé la coopération au développement régional et l'accord de coopération sur la gestion des ressources marines et halieutiques sont Gorontalo, Moluques, Moluques du Nord, Papouasie, Papouasie occidentale et Sulawesi du Nord. À cette occasion, le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trenggono, a déclaré que la gestion des ressources marines et halieutiques dans la région nécessite une harmonisation et une synchronisation tant en termes d'autorité que de supervision, y compris l'approche socioculturelle nécessaire. Le ministre Trenggono a invité le gouvernement provincial à défendre le principe de durabilité dans la gestion de leurs ressources marines et halieutiques. Trenggono a déclaré que son parti mettrait en œuvre une politique d'attraper un poisson de pêche mesuré en privilégiant l'équilibre économique et écologique dans la gestion des ressources marines et halieutiques existantes. Les objectifs à atteindre de cette politique sont une répartition de la croissance économique, l'amélioration du bien-être communautaire, la modernisation du secteur marin et halieutique indonésien et la préservation des écosystèmes. Avec la compréhension et la coopération qui ont été établies, le ministre Trenggono a déclaré qu'il était optimiste que le secteur maritime et de la pêche contribuerait davantage à la croissance économique nationale et apporterait de grands avantages aux communautés locales. Le programme du ministère des Affaires maritimes et de la pêche lié à l'aquaculture seront également faciles à mettre en œuvre dans les régions. Selon le ministre Trenggono, le succès des programmes prioritaires de son ministère nécessite le soutien des gouvernements locaux. Pour cette raison, il a exprimé sa gratitude et son appréciation au gouvernement dirigé par le gouvernement provincial pour leur soutien et leur engagement dans la mise en œuvre d'une gestion durable des ressources marines et halieutiques. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trenggono, a souligné que pour assurer la mise en œuvre de la politique de pêche mesurée se déroule de manière efficace et efficiente, son parti améliorera la supervision avec un système intégré. Cela a été fait avec la facilité de navires de surveillance de la pêche, de satellites et de centres de contrôle. Chers amis, c'était la rubrique « Mon Indonésie » de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Benci
international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est le quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel intitulé Cabuk Rambak, un plat de la ville de Solo, Java Central. La ville de Solo, dans la province centrale de Java, est la ville natale du 7e président de l'Indonésie, Joko Widodo. Solo est considéré comme un paradis culinaire, l'une des villes du pays qui est riche en délicieuses spécialités, entre autres cabuk rambak. Cabuk rambak est un fait très simple à faire. C'est assez seulement savoureux et composé de sésame grillé et de jeunes noix de coco rapides. Ajoutez ensuite les feuilles de tilleul finement émincées, l'air de chandelle, la purée de kencur et le poivre moulu, le sel et le sucre qui sont ensuite ajoutés avec des œufs. Cabuk rambak est un plat typique de la ville de Solo. Il est généralement vendu dans les villages et les quartiers depuis le matin jusqu'à midi. Ce plat se compose de riz emballé dans une feuille de cocotier qu'on appelle ketupat. Ensuite, on verse la sauce de sésame et on ajoute des kerupuks appelés karak. Ce plat est servi sur une assiette de feuilles de bananier pliées d'une manière unique appelée pincuk. Autre particularité, vous n'utiliserez pas une cuillère ou bien une fourchette, mais une petite bâtonnée. Pas d'assiette, pas de cuillère ou de fourchette. Mais alors, comment le manger? Le petit bâtonnet est enfoncé dans les morceaux de ketupat. C'est simple. Si on va acheter le cabuk rambak à Solo, vous devez vous rendre à certains endroits comme le marché de Gede, le grand marché traditionnel de Solo. En outre, le dimanche matin jusqu'à début de l'après-midi, on peut le trouver au stade Manahan. Le prix d'une portion environ 2000 jusqu'à 2500 rupiah. Chers amis, c'est le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Di bukit persaudaraan, gulita bertaburan bintang. Oh gemilang, kerap keruh sapa angat, mengenal jiwa yang tak padam. Derap geloranya terangi tapak heningku. Terbitkan sentausa di sini.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis de quatre coins du monde, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « L'Indonésie en couleur » intitulée « Le monument de la chaussure à Jakarta ». Il y a une vue différente près de la gare BNI City Sudirman dans le centre de Jakarta. Du côté de la route de Sudirman, il existe une installation de chaussures géantes. Le vice-gouverneur de DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, a déclaré que le monument de la chaussure était une collaboration avec un certain nombre de parties, entre autres PT Jakarta Turisindo ou Jaktur. Riza a déclaré que le monument avait été construit pour embellir un coin de Jakarta et présenter les produits locaux au public. Il a également expliqué que les grands pays du monde ont souvent fait la même chose, comme l'Arabie Saoudite, qui a construit un monument à vélo. L'installation de chaussures géantes dominée par le blanc est placée sur un objet semblable à une scène bleue. Il y avait plusieurs écrits sur la scène de la chaussure géante, entre autres « Collaboration pour le progrès »,« Une ville de collaboration » et « Expressi point sepatu compass point com ». Il existe également un code QR qui, une fois scanné, contient une lettre ouverte aux combattants de l'industrie créative en Indonésie. La lettre ouverte expliquait que l'installation de chaussures géantes au centre de la capitale faisait partie du Festival de collaboration de Jakarta. La tâche par intérim du chef de l'Agence provinciale du tourisme et de l'économie créative DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, a déclaré que l'installation de ces chaussures sera affichée en trois points du 17 au 26 septembre 2021, à savoir à la station BNI City, Taman Dukuh Atas, Lapangan Banteng et le Vélodrome Alun-Alun. La construction de cette installation est initiation d'acteur de l'économie créative non budgétaire dans le budget des revenus et des dépenses régionales. Le gouvernement provincial de Jakarta facilite en fournissant des espaces publics qui peuvent être utilisés par tous les habitants de Jakarta. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur.
Kita harus bahagia.
Hati-hati harus hati.
kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Oh, kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Oh, no, no. Kamu harus bahagia.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical avec moi Tiwi. Dans cette édition, nous présentons une chanson pop de Kroncong dont le titre est Cinta Kita ou en français Notre Amour, chanté par Hetty Kusendang. La chanson intitulée Cinta Kita a été composée par M. Nasir et Yungki RM, qui a été popularisée par Inka Christy en duo avec la chanteuse malaisienne Amy Search en 1991. Cette chanson raconte du pouvoir de l'amour entre deux personnes qui ne veulent pas être séparées par n'importe quoi qu'il arrive. Cette chanson a ensuite été chantée par Hetty Kusendang, dont le genre est Kroncong. Bon, chers auditeurs, voici Hetty Kusendang avec la chanson pop Kroncong intitulée Cinta Kita ou en français Notre Amour. Bonne écoute!
Walaupun harus ku terjang lautan bara, demi cintaku padamu, kegurun ku ikut denganmu, biarpun harus thank you.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.